France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Je ne pouvais pas terminer cette première série d'admirations littéraires sans lire les textes de Philippe Muret. Alors ce romancier, cet essayiste qui nous a quittés en 2006, c'est un génie critique de son époque. Il invente de façon absolument prophétique les concepts comme l'enfantéisme, le festif, les prénoms. Évidemment, Muret est un provocateur, est un excessif, est un super réac, diraient les esprits rétrécis. Mais c'est avant tout un prophète qui a pressenti tout ce que notre époque allait créer et qui le fait avec un humour extraordinaire. C'est le seul sociologue qui te réconcilie avec la drôlerie, avec cet humour, cette ironie et ce désespoir. Je vais vous lire un texte de janvier 2005 qui s'appelle « Le triangle des Bermudas ». Le triangle des Bermudas. Alors il commence en nous disant que l'enfant ne remonte pas à la plus haute antiquité. En réalité, il est d'invention récente, guère plus de 200 ans. Mais oui, l'enfance est très récent. L'enfance avant, c'était le bas âge, puis on n'en parlait pas, on attendait que ça passe. Puis l'enfance est arrivée, et avec elle l'enfant et ses sortilèges. Il fut alors convenu que l'enfant était le meilleur revers de la médaille humaine et l'enfance le stade le plus enviable de la vie. L'enfant devint l'avenir de l'homme. En se prosternant devant lui, tous ceux qui n'étaient plus des enfants commencèrent à désirer plus ou moins consciemment l'état d'innocence qui lui prêtait, du moins appelait-il ainsi ce qu'un autre a nommé « principe de plaisir ». On a compris que c'était Freud. C'est depuis qu'il n'est plus indispensable à la survie matérielle de ses parents, comme aux âges farouches où ceux-ci attendaient qu'ils poussent la charrue à leur place quand ils ne pourraient plus le faire eux-mêmes, qu'il est devenu vital, non seulement comme fruit de la performance technique, à travers les méthodes d'engendrement, etc., etc., mais surtout comme lumière d'un nouvel âge de la Terre, comme guide littéralement spirituel sur le chemin enchanté du nouveau monde, le nôtre, celui qui commence après la fin du Realitätsprinzip, ça je saurais jamais le dire, celui des grandes vacances de l'humanité. Sa valeur d'usage a décliné dans les proportions exactes où sa valeur céleste s'est accrue. Ainsi est née la religion de l'enfant. Ce maître absolu où la mer est toujours bleue, le sable toujours blanc, où les toits des maisons sont en nougatine, les murs en chocolat. C'est une religion jeune, en plein élan, et qui fait des adeptes chaque jour. C'est la religion de l'Occident. Ce troisième âge du monde, c'est l'infantéisme. Pour qui même enfant a pris l'habitude de considérer l'enfance comme une sorte d'infirmité de naissance, pénible mais curable, la surprise est constante que tant d'autres y voient les éléments d'une poésie perdue à retrouver. Le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants où c'est tous les jours le printemps. D'autant que l'infantéisme fait rage quand justement il n'y a plus d'enfants, ni d'enfance, il n'y a plus d'adultes non plus. Hein, par la même occasion, la frontière entre les deux stades de la vie s'efface au profit du premier dont l'adulte infantéiste épouse à toute allure les goûts, la façon de parler, de jouer, de croire ou de ne pas croire, de s'émouvoir, de réclamer des friandises, des divertissements, mais aussi des lois qui le protègent des dangers du monde extérieur. Le communautarisme, avec ses revendications multiples de discrimination positive, ses exigences de mesures protégeant les catégories hétéroclites, mais sans cesse plus nombreuses de populations, est un effet majeur de l'infantéisme. Jamais le monde des grandes personnes n'aurait demandé, sans s'étouffer de honte ou de rire, d'être légalement protégé du rire des autres, de leurs propos désobligeants, de leur haine ou de leur phobie supposée. Le sens du respect, de la dignité des grandes personnes aurait interdit à celles-ci d'exiger le droit au respect et à la dignité. Quant au principe de plaisir, il se manifeste aussi chez l'adulte infantifié et infantéiste dans sa manière scientifique de calculer, de préméditer, de fabriquer les enfants. L'enfant délinquant le déconcerte, par exemple, mais il se borne à le regarder comme un accident, une regrettable bavure dans le vert paradis. L'enfant criminel, l'enfant tueur de son père et de sa mère, massacreur de son petit frère, de sa grande sœur et de tout le reste de la sainte famille recomposée, semble pourtant promis un certain avenir. Il rivalise en tout cas désormais avec le tueur en série adulte et lui dispute la première place au panthéon des grands monstres. Seul lui manque encore la force physique de transporter ensuite ses victimes, de les dépecer, d'enterrer leurs membres épars dans des lieux discrets et appropriés. Il les laisse généralement sur place. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il bâcle. Mais l'infantéiste ne sait que penser de l'enfant tueur qui dérange sa psychologie, sa morale, son idéal, et qui lui est de toute façon caché par l'autre image de l'enfant, celle de la victime absolue. L'enfant menteur est également gênant. Il perturbe l'un des premiers articles de foi de l'infantéiste qui postule que l'enfant dit toujours le vrai, à l'opposé de l'adulte qui ment comme un arracheur de dents. L'ennui, c'est que le dogme de la vérité enfantine est proclamé par l'adulte qui se reconnaît lui-même volontiers capable des pires mensonges. Est-il bien raisonnable dans de telles conditions de le croire sur parole ? Mais oui, dans la mesure où il n'est plus vraiment un adulte. La réalité le concerne de moins en moins, et de toute façon, elle lui échappe de plus en plus. Oui, c'est la grande thèse de Muret, c'est que tout se déréalise pour le festif. La vie, le réel, l'avenir, l'histoire n'existent plus. Il n'y a plus que la fête. C'est la fête. L'homme d'il y a 200 ans n'a pas de sens. Il est là pour arriver à eux. Ils sont l'aboutissement de la vie. Le festivus, l'homme festivus, celui qui passe sa vie à faire la fête. La fête niant tout le négatif. La fête niant toutes les guerres. La fête comme un endroit absolument indépassable d'épanouissement. Alors évidemment, les gens disent « Mais pourquoi il n'aime pas la fête ?» C'est pas qu'il n'aime pas la fête. La fête n'a de sens que quand il y a eu avant la non-fête. Mais si c'est la fête tout le temps, ça devient un système totalitaire et quasiment fasciste. Quant aux droits et protections qu'il réclame pour l'enfant, c'est pour lui-même qu'il les exige. L'infantéisme, culte de l'enfant-dieu, est d'abord une auto-croyance, un auto-culte, le culte de soi-même idéalisé, de soi en tant que néo-enfant tout-puissant. L'infantéisme est la maladie infantile de l'humanité contemporaine sénile. Se débrouiller par soi-même ne fait plus partie du cahier des charges de l'humain moderne. Assumer les conséquences de ses actes non plus. Aussi retourne-t-il à la mer comme à une mer immense et définitive, comme le firent avant lui certains grands mammifères, certains cétacés par exemple, dauphins ou baleines, après avoir effectué 3 petits tours sur la terre. Il devient vacancier, et là c'est du génie, il devient alors vacancier, touriste, véliplanchiste, gibier de paillotte à Kaolac, bébé reconstitué sur un transat de Paradise Beach, baigneur candide à Copipi, habitant d'une carte postale bleue et tiède comme un éternel présent victorieux de l'histoire et de la réalité. Cet Éden aquatique, ce royaume de l'immaturité, c'est le triangle des Bermudas. On y disparaît que pour y jouir, bercé par le roulement des eaux primordiales, comme par ses nouvelles nourrices, ces puériculteurs, ces puéricultrices très spéciaux que sont les industriels du tourisme, voyagistes, tour opérateurs, agents de tout acabit, transporteurs de viande à loisir. Qu'une catastrophe survienne, que la fureur des éléments se dresse contre le paradis, et c'est aussitôt l'infantéisme qui fait entendre sa voix, en même temps scandalisée, douloureuse et apeurée. L'adulte infantifié sur son île de rêve n'a plus les moyens de comprendre le cauchemar qui le vise, ni les tenants, ni les aboutissants de son destin brusquement tragique. Sur fond de fronts de mer dévastés et d'atolls en charpie, au milieu des transats dispersés, des jet-skis volant dans les airs, pim, pam et poum prennent soudain des dimensions de personnages de Shakespeare ou de Sophocle. Le cataclysme grandit les figurants bronzés du désastre ordinaire. Oedipe en short aux Maldives sort de son bungalow et les yeux crevés cherche à tâtons ce qu'il a pu faire pour mériter un sort pareil. Il ne cherche pas longtemps, il s'empresse de rebaptiser Tsunami, le raz-de-marée. Un petit nom mignon, sorti tout droit de la hotte du Père Noël, afin d'apprivoiser le Père Fouettard. Il se jette tête baissée dans la compétition de la solidarité. Autochtone, c'est-à-dire otage du syndrome de Stockholm touristique, il commence par nier que sans l'infantéisme, au nom duquel on a déporté des populations, bétonné les mangroves, rasé les obstacles naturels, le désastre aurait été moins meurtrier. Et il supplie ses bourreaux de revenir au plus vite, de reprendre leur partie de biche volée dans les sites dévastés. Les tours opérateurs sont bientôt de retour. La viande à loisir suit. Pendant la destruction de la géographie, la fin de l'histoire continue.
Ce qui se passe aujourd'hui, Philippe Muret, tous les événements, je veux dire le décor de la scène actuelle, le théâtre et les scènes qui s'y jouent, ont comme acteur et comme metteur en scène un individu qui est l'individu d'aujourd'hui que vous appelez l'homo festivus.
Oui.
Alors on a déjà, il y a l'homo academicus, l'homo, oui. Il y a énormément
l'homo
erectus, l'homo sapiens, oui. C'est une catégorie de pensée. Donc est-ce qu'on peut commencer pour justement essayer de voir ce que c'est que l'homo festivus?
J'ai donné ce nom-là à l'habitant moderne d'une autre époque, pour essayer, parce qu'il me semble qu'on est dans une période de bouleversement complète et que le vivant actuel ne ressemble que très loin au vivant d'il y a même seulement peut-être 20 ans. Donc je lui ai donné un autre mot, d'une façon, un autre nom d'une façon expérimentale, pour autant que la fête qui, dans les temps historiques, était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, est devenue, me semble être devenue, plus ou moins le tout, ou être en cours, en passe de devenir le tout de la vie quotidienne, et le continuum même de la vie. Donc j'appelle l'habitant heureux de cette mutation, je l'appelle Homo Festivus. C'est aussi un nom que je donne pour signifier qu'il y a une métamorphose en cours, que cet homme est un anthropologiquement...
Et mutant.
Voilà.
Alors évidemment, là, c'est très étonnant, mais il faut écouter maintenant le concept du débat. Ça, je l'ai lu à l'atelier, bizarrement, qu'est-ce que j'y ai joué à ce théâtre. Et celui-là faisait toujours un assez gros effet. Il a été écrit en 2003. Écoutez bien. Il faudrait ne jamais débattre. Le débat, comme le reste dans notre univers d'intransitivité galopante, a perdu son complément d'objet. On débat avant de se demander de quoi. L'important est de se rassembler. Le débat est devenu une manie solitaire qu'on pratique à 10, à 50, à 100, un stéréotype célibataire, en même temps que grégaire, une façon d'être ensemble, un magma d'entre-gloses qui permet de se consoler sans cesse de ne jamais atteindre seul à rien de magistral. Il faudrait ne jamais débattre, ou si l'on y tient vraiment, ne débattre que de la nécessité de faire des débats. Se demander à l'infini, jusqu'à épuisement, quelle est l'idéologie du débat en soi et de sa nécessité jamais remise en cause, et comment il se fait que le réel multiple dont le débat prétend débattre s'efface au rythme même où il est débattu. Mais aucun débat ne peut s'élaborer sur une telle question, parce que c'est précisément cette évaporation du réel qui est le véritable but impensé de tout débat. On convoque de grands problèmes, on les dissout au fur et à mesure qu'on les mouline dans la machine de la communication, et plus il y a de débats, moins il y a de réels. Il ne reste à la fin que le mirage d'un champ de bataille où s'étale l'illusion bavarde et perpétuelle que l'on pourrait déchiffrer le monde en débattant, ou du moins qu'on le pourra peut-être au prochain débat. C'est cette illusion-là dont se nourrit le débatteur. Mais pourquoi faudrait-il débattre ? Tout argument dont on débat est supposé faible par définition, puisqu'il peut être démoli ou entamé par un autre argument. Toute pensée que l'on est obligé de soutenir mérite de s'écrouler. Et d'ailleurs, la véritable pensée, la pensée magistrale, ne commence que là où le débat s'achève. Or, il n'y a que le magistral qui compte parce qu'il ouvre à la pleine connaissance de la réalité humaine et il n'est jamais obtenu en frottant l'une contre l'autre des idées hétéroclites, comme dans les cours orientaux. On frotte des babouches pour en faire sortir des génies. Une nouvelle pensée, une pensée magistrale du monde, ne peut pas être discutée, pesée tranquillement, sous-pesée entre gens de bonne compagnie, amendée, corrigée, nuancée, tripotée, faisandée de pour et de contre, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une motion de compromis dans une assemblée syndicale ou à la misérable synthèse terminale d'un congrès de parti socialiste. Toute proposition originale est menacée dans le débat par ce qui peut lui arriver de pire. Un protocole d'accord. Un protocole d'accord. Une nouvelle pensée du monde peut et doit être assénée comme un dissentiment irrémédiable, comme une incompatibilité d'humeur. Faut pas argumenter, faut trancher dans le vif. Penser, c'est présenter la fracture. Le débat court les rues, le débat court les ondes, les chaînes, les plateaux, les chaumières, les châteaux. Il n'y a plus que cela. Et dans le même temps, tout le monde regrette qu'il n'y ait plus de débat, qu'on ne puisse plus débattre ou qu'il soit interdit de débattre. Mais débattre de quoi ? De tout ce dont on débat quotidiennement sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, les plateaux, les rues, les chaumières. Oui, mais justement, dira-t-on, ce ne sont pas là de vrais débats. Il y a en effet une absence de vrai débat qui se fait cruellement ressentir, paraît-il, notamment par ceux qui se bousculent pour participer à tous les faux débats du jour et qui disent en ressortant que ce n'était pas encore là un vrai débat. Mais comment reconnaît-on un vrai débat d'un faux débat ? Est-ce qu'il peut y avoir dans les conditions actuelles une manière probe et une autre malhonnête de discuter le bout de réel ? De disputer de la catastrophe globale du monde concret tel qu'il se présente ? De palabrer à propos de l'absence d'avenir que contient le futur tel qu'il se déploie sous nos yeux avec pétulance ? Est-ce qu'il peut y avoir une vraie et une fausse façon d'argumenter ou de controverser ? Et ceux qui participent à de faux débats en sont-ils conscients ? En ont-ils honte ? Savaient-ils au moment d'être invités qu'il était un faux débat ? Ou s'en sont-ils seulement aperçus en cours de débat ? Et songe-t-il alors à porter plainte pour faux et usage de faux débats ? Ou attendent-ils dans la fièvre le prochain débat qui sera peut-être le vrai ? Si la seule question dont on ne débat jamais concerne les bienfaits ou les méfaits du débat en soi, c'est que le débat relève de ces notions sur lesquelles justement il n'y a pas de débat. Tout fait débat de nos jours, sauf précisément ce dont il serait profitable de débattre. C'est-à-dire tout ce qui serait enrichissant de battre comme plâtre. Mais ça, c'est impossible, parce que les mêmes qui réclament de vrais débats se félicitent aussi dans le même temps que des choses de plus en plus nombreuses ne fassent plus débat. La multiplication extatique des débats s'appuie, sans le savoir, sur l'accroissement perpétuel de tout ce qui, au fur et à mesure que se multiplient aussi les inventions les plus monstrueuses, ne fait plus débat. Ces choses qui ne font plus débat s'accumulent à un rythme fantastique, et cette accumulation même constitue la somme des conquêtes de notre temps. Et il est bien entendu que sur toutes les choses, on ne reviendra plus puisqu'elles ne font plus débat. Du moins, on décide ainsi ce qui décide qu'il en sera ainsi, parce qu'ils l'écrivent. C'est alors que des horreurs à n'en plus finir, des inventions grotesques, des événements insensés, risibles, des convictions impayables, des bizarreries tératologiques entrent les unes après les autres, dans le domaine sacré de ce qui ne fait plus débat. Au moment où l'on se plaint si fort qu'il n'y ait plus de débat et que l'on réclame de vrais débats, L'extension des demandes de vrais débats s'effectue en même temps que s'étend le champ de tout ce qui ne fait plus débat. Et ces deux mouvements font de pair. Pour ne prendre que des exemples triviaux et futiles, il est évident que Paris-Plage ne fait plus débat. Nuit Blanche ne fait plus débat. La technoparade ne fait plus débat. Et encore tant d'autres inventions qui devraient être conjointement objet de pensée et certainement objet de risée.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Tourne-toi.
Non.
Contre moi.
Non. Pas comme ça.
Et danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge-toi.
Maintenant un poème génial, absolument génial, de Muret pour montrer la prophétie sur le, comment dire, sur la c'est difficile à expliquer la pensée de Muret. Elle est tragique, elle est... c'est un homme d'une culture absolument colossale, c'est un homme complètement en rupture avec la modernité, la bienveillance, les bobos. Il a épinglé un peu plus la gauche que la droite, parce que la gauche est très productrice de mythologie festive, mais il a aussi... Il est bien au-delà d'être de droite ou de gauche. C'est simplement un prophète tragique, d'ailleurs il en est mort, de la destruction de la réalité et de l'époque que nous vivons, qui pourrait se résumer dans un refus. C'est compliqué. Moi, j'essaye d'expliquer que le festivus, le festif, est en réalité un système autoritaire. Les gens ne comprennent pas. Moi, nous, on fait la fête. Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Oui, mais cette fête constante, le seul but, les festivals dans tous les villages, les festivals partout, c'est une manière de déréaliser la réalité telle qu'elle est pour que les gens pensent à une réalité, à aseptiser des nuances, à aseptiser du négatif. Le prénom sans le nom. Jean a violé Robert parce que le nom c'est un héritage. Ils ne veulent pas d'héritage. Jean, c'est abstrait. Il n'y a plus que des prénoms. Et maintenant, je vais vous lire un texte merveilleux. Rien n'est jamais plus beau. Là, c'est le texte le plus génial sur l'époque, sur le grand. Alors, évidemment, c'est une bobo caricaturale qu'il décrit. Et puis, il fait des vers de Mirliton. Il se prend pas pour Baudelaire, mais il versifie, il fait de la versification sur un truc d'une idiote merveilleuse. Rien n'est jamais plus beau qu'une touriste blonde qu'interviewe des télés nippones ou bavaroises. Juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. point de lieu à la ronde qui ne fût excursion. Rien ici ou là-bas qui ne fût évasion. Pour elle, les pays étaient terre de passion et de révélation et de consolation. Pour elle, les pays étaient terre de loisirs. Pour elle, les pays n'étaient que communion. On en avait banni les dernières séditions. Pour elle, toutes les terres étaient terre de plaisir. Pour elle, les nations étaient lieu d'élection. Pour elle, les nations n'étaient que distraction. Pour elle, les nations étaient bénédiction. D'un bout du monde à l'autre et sans distinction. Elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation pour égayer ainsi nos fêtes de fin d'année. Elle cherchait à présent et pour un prix modique à faire partout régner la convivialité, comme disent les conseils en publicité. Elle se qualifiait d'intervenante civique. Elle avait pris contact avec plusieurs agences et des professionnels de la chaude ambiance. Elle était depuis peu amie d'un vrai artiste, musicien citoyen, jongleur équilibriste, grand organisateur de joyeuses sarabandes le mercredi midi et aussi le samedi pour la satisfaction des boutiques Godasland, créateur d'escarpins cubistes et nabis. Elle aussi s'entraînait à des tours rigolos en lançant dans les airs ses propres godillots. Basket bimatière à semelle crantée. Les messages passent mieux quand on s'est bien marré au ministère social des instances drôlatiques. Elle avait exercé, à titre de stagiaire, l'emploi de boîte vocale. Précaire et temporaire, elle en avait gardé un souvenir érotique. Elle avait également, durant quelques semaines, remplacé une hôtesse de chez Valeurs Humaines, filiale fondamentale de commerce équitable, où l'on vend seulement des objets responsables. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques. Fabriquée dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires, café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain, ayant accès au pré, j'ai toujours adoré ça, café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain, ayant accès au pré, ils ont accès au pré, les petits poulets de grain, café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain, ayant accès au pré, robe du Bangladesh, jus d'orange allégé, connotation manouche complètement décalée. Sans vouloir devenir une vraie théoricienne, elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste et qu'il faut exiger sans cesse et sans embâge la transparence totale dedans l'étiquetage. Comme dans le tourisme, une pointilleuse éthique transformant celui-ci en poème idyllique. À ce prix seulement, loin des sentiers battus du vieux consumérisme passif et vermoulu, sortons de l'archaïque rôle de consommateur pour s'affirmer enfin vraiment consomme-acteur. Elle faisait un peu de gnose le soir venu, lorsqu'après le travail, elle se mettait toute nue et qu'ayant commandé des sushis sur le net, elle les grignotait assise sur la moquette. Ou bien elle regardait un film sur Canal+. Ou bien elle repensait à ses anciens amants. Ou bien elle s'asseyait droit devant son écran et envoyait des mails à des tas d'inconnus. Elle disait « Je t'embrasse ». Elle disait « Je t'enlace ». Elle faisait grand usage de la touche arrobase. Elle s'exprimait alors avec beaucoup d'audace. Elle se trouvait alors aux frontières de l'extase. Elle voulait 3 bébés et même peut-être 4. Mais elle cherchait encore l'idéal géniteur. Elle n'avait jusqu'ici connu que des farceurs, des misogynes extrêmes ou bien d'odieux blâtres, des machistes ordinaires ou extraordinaires, des sexistes populistes très salement vulgaires, des cyniques égoïstes, des libertins folâtres ou bien des arnaqueurs. Elle la trouvait saumâtre. Elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les collectifs éducatifs possibles et harcelant les maîtres les plus irréductibles, conservateurs pourris, salement encroûtés, qui se cachent derrière leur prétendu savoir, faute d'appréhender un monde en mutation, qui s'en douta pour eux l'allure d'un repoussoir quand il offre à nos yeux tant de délectation. Elle s'appelait Praline, mais détestait son nom. Elle voulait qu'on l'appelle Églantine ou Sabine ou bien encore Ondine ou même Victorine ou plutôt Proserpine. Elle trouvait ça mignon. Elle faisait un peu de voile et d'escalade. Elle y mettait l'ardeur qu'on mettait aux croisades. Elle se précipitait sous n'importe quelle cascade. J'ai toujours adoré ça. Elle se précipitait sous n'importe quelle cascade. Elle recherchait partout des buts de promenade. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Elle disait qu'il fallait réinventer la vie, que c'était le devoir du siècle commençant après toutes les horreurs du siècle finissant. Là-dedans, elle s'était déjà bien investie. De temps en temps, chez elle, rue des Patibulaires, elle mobilisait certains colocataires afin d'organiser des séances de colère contre l'immobilisme et les réactionnaires. Elle exigeait aussi une piste pour roller. Il y a 20 ans, 25 ans, c'est dément. Elle exigeait aussi une piste pour roller. Deux ou trois restaurants à thème fédérateur. L'installation du câble et d'un mur de l'amour où l'on pourrait écrire « Je t'aime sans détour ». Le jour de la fierté du patrimoine français, quand on ouvre les portes des antiques palais, elle se chargeait d'abord de bien vérifier qu'il ne manquait nulle part d'accès handicapé, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale grossesse, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale tendresse, qu'on avait bien prévu des zones anti-détresse, qu'il y avait partout des hôtesses gentillesse. Faute de se faire percer plus souvent la forêt, elle avait fait pircer les bouts de ses deux seins par un très beau pierceur, sans nul doute canadien, qui des règles d'hygiène avait un grand respect. Avec lui, aucun risque d'avoir l'hépatite B. Elle ne voulait pas laisser son corps en friche, comme font trop souvent tant de gens qui s'en fichent. Elle pensait que nos corps doivent être désherbés. Elle croyait à l'avenir des implants en titane, phéromones synthétiques pour de nouveaux organes. Elle approuvait tous ceux qui aujourd'hui claironnent des lendemains qui greffent et qui liposuctionnent. Faute de posséder quelque part un lopin, elle s'était sur le web fait son cyber garden, rempli de fleurs sauvages, embaumé de pollen. Elle était cyberconne et elle votait Jospin. Elle avait parcouru l'Inde, le Japon, la Chine, la Grèce, l'Argentine et puis la Palestine. Mais elle refusait de se rendre en Iran, du moins tant que les femmes y seraient mises au ban. L'agence opérateur de l'avenue du Maine proposait des circuits vraiment époustouflants. Elle en avait relevé près d'une quarantaine qui lui apparaissaient plus que galvanisants. On lui avait parlé d'un week-end découverte sur l'emplacement même de l'antique Atlantide. On avait évoqué une semaine à Bizerte, un pique-nique à Beyrouth ou encore en Floride. On l'avait alléché avec d'autres projets. Une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande ou au bout de la nuit, un séjour de 3 heures en pleine Amazonie, 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours, seul, sur la banquise, avec les ours blancs pour apprendre à survivre, une randonnée pédestre dans l'ancienne Arcadie, un réveillon surprise en pleine France moisie, une soirée rap dans le Belouchistan profond, le Mexique en traîneau, un week-end à Mâcon, elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois, puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Et tous les deux étaient des altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle. qu'on se retrouve la semaine prochaine dans un format d'émission légèrement différent. Je partagerai l'antenne avec bonheur avec Joël Gaillot, journaliste et critique théâtrale au journal Le Monde, pour mes prochaines admirations littéraires, qui va me permettre de moins lire de textes et d'échanger avec une femme qui passe tous les soirs sa vie au théâtre et qui est une femme exceptionnelle et qui a accepté de venir converser plusieurs fois avec moi sur des textes fondamentaux en compagnie notamment de Louis Jouvet et de Molière.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Et je remercie également Andrea Le Chêne à la réalisation. Ce merveilleux Laurent Baudouin à la technique, Thierry Dupin pour la musique et ma compagne Emmanuelle Garacino qui m'a accompagné tout au long de cette aventure démente. Et donc à dimanche prochain pour cette nouvelle série.